Rav Benjamin David, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cet entretien avec nous. C'est un sujet très intéressant que nous allons aborder aujourd'hui, mais c'est également un sujet très sensible pour bon nombre de couples dans le monde, puisqu'il s'agit de la procréation médicalement assistée. Alors, Rav David, vous dirigez un institut en Israël qui s'appelle le Mahon Pua, en français l'Institut Pua. C'est une association à but non lucratif qui... on va dire aide, soutien, accompagne les couples qui ont des problèmes d'infertilité. Et puis, surtout, vous les secondez en matière de halakha, à savoir qu'est-ce qui est permis dans le judaïsme aujourd'hui par rapport à toutes ces nouvelles techniques de procréation médicalement assistée. Donc, j'aimerais beaucoup que vous nous éclairiez de vos connaissances à ce sujet, parce que le public est un petit peu perturbé à savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Mais tout d'abord, parlez-nous un petit peu de l'Institut Pua.
Alors, l'Institut Pua a été créé à peu près il y a une trentaine d'années par un rabbin qui s'appelle le Rav Menachem Burstein. Et au départ, comme vous l'avez précisé, le but était d'informer, de soutenir et d'accompagner les couples qui font des traitements de fécondité, que ce soit des inséminations, des fécondations in vitro, etc. Avec le temps, les sujets se sont élargis, puisque les femmes sont tombées enceintes. Elles avaient des questions qui étaient en rapport avec la grossesse, les examens durant la grossesse, l'accouchement. Et puis après, on a eu des questions par rapport, en rapport avec la contraception, etc. De nos jours, l'Institut Pua, il chapeaute, je dirais, tous les sujets qui sont en rapport avec la gynécologie de l'enfance, parce qu'il y a aujourd'hui une sous-spécialité qui parle de la gynécologie des adolescentes, jusqu'au moment de la ménopause, etc. Donc aujourd'hui, l'Institut Pua, je dirais qu'on est en contact avec tout ce qui est en rapport avec la gynécologie.
La santé de la femme.
La santé de la femme, voilà, c'est exactement le mot qu'il fallait utiliser. Aussi, beaucoup de génétique, de questions qui sont en rapport avec la génétique.
Et vous êtes une équipe de médecins ou vous êtes une équipe de gens plus spécialisés sur la halakha?
Alors, on est une équipe, l'Institut Bois à la base est une équipe de rabbins qui se sont spécialisés dans ces domaines, parce que c'est bien sûr un domaine auquel il faut spécialiser pour pouvoir comprendre et donner des réponses. Il faut bien sûr connaître aussi tous les côtés médicaux qui sont en rapport avec ces sujets-là. C'est pour ça qu'à l'Institut Pua, on a une formation, je dirais, médicale qui n'est pas formelle, mais qui est très poussée. Par exemple, toutes les semaines, à l'Institut Pua, on invite un grand médecin, un professeur, qui vient nous donner une conférence sur un sujet qui est très pointu, nous faire découvrir les nouveautés. Et puis après, on a bien sûr une discussion entre nous sur les autres côtés, je dirais, halakhiques, éthiques, qui sont en rapport avec ce sujet-là.
Comment vous obtenez les réponses aux questions aujourd'hui concernant la halakha et les procréations médicalement assistées?
Alors, il est important de savoir que l'Institut Pua, par essence, il n'est pas, je dirais, rattaché à un rabbin, à un décisionnaire rabbinique. Au départ, celui qui a créé l'Institut Pua avec le rabbin Rembrandt, c'était l'ancien grand rabbin d'Israël, qui s'appelle le Rav Mordechai Eliyahu, mais la décision qui a été prise dès le départ, c'est d'être en contact avec tous les rabbins de toutes les tendances, que ce soit séfarades, ashkénazes, chassidiques, litaïtes, etc., sionistes religieux, pour pouvoir justement donner des réponses qui sont adaptées au couple et à leurs besoins. Pour pas que le but pour nous, c'est d'accompagner le couple dans tous ses besoins, y compris d'avoir une réponse qui est adaptée à ses croyances,
à sa culture, à ses traditions,
etc. Voilà. Donc nous, à l'Institut Pua, lorsqu'on a une réponse, une question, je dirais, nouvelle qui se présente devant nous, on envoie des lettres aux différents grands rabbins dans le monde pour pouvoir avoir leurs réponses. On va les rencontrer, on va discuter avec eux, on va leur présenter les nouveaux sujets. Et au fil des années, on a l'année des milliers de réponses sur les différents sujets. Bien sûr, il y a des livres qui sortent. On est aussi qui sont sur ces sujets-là. Mmh. Et puis nous-mêmes, à l'Institut Bois, après 30 années de travail, on a aujourd'hui sorti une genre d'encyclopédie en 5 volumes, justement sur tous ces sujets-là, sur ce qui est en rapport avec la fécondité, avec l'accouchement, avec la grossesse, avec la contraception. Et aujourd'hui, ces livres qu'on appelle les Sefer Poua, les livres de Poua, sont aujourd'hui, je dirais, des références dans le monde halakhique, chez les rabbins. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine.
Mais j'imagine que lorsque vous posez une question sur, par exemple, une nouvelle technique médicale à différents rabbins, vous avez différentes réponses. Alors qui, au bout du compte, décide quelle sera la réponse à apporter à un couple?
Alors je dirais que c'est le sujet le plus difficile, je dirais, à cerner, parce que justement, mais ça, c'est pas uniquement dans ce sujet-là, c'est dans tous les sujets.
Bien sûr.
Depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, depuis qu'on n'a plus le Sanhedrin, le grand Sanhedrin, on est confronté depuis des milliers d'années au fait que, voilà, on a des différents avis sur différents sujets, et il est parfois difficile de prendre des décisions. Alors, on essaye après, nous, à l'Institut Poua, d'essayer de... J'ai fixé une politique qui est la politique, je dirais, le mainstream, la tendance principale des rabbins sur ce sujet-là.
Vous auriez un exemple à nous donner ? Un exemple concret, par exemple, de situation où vous avez eu des avis rabbiniques différents, halakhiques différents, et que vous avez dû un petit peu faire du slalom entre les différents avis ?
Disons qu'aujourd'hui, les grandes discussions, les grandes polémiques, c'est pas le mot peut-être, oui, discussions polémiques, sont autour de ce qu'on appelle les dons d'ovocytes, les dons de sperme, les mères porteuses. C'est surtout sur ces sujets-là qu'il y a différents avis entre les rabbins.
Alors justement, on est en plein dans le sujet là. Dites-nous, qu'est-ce qui est permis aujourd'hui par la halakha en matière de technique médicale, de procréation médicalement assistée en France et en Israël ? Parce que je sais aussi que c'est différent entre les deux pays.
Alors je veux aussi préciser aussi qu'avec le temps, je dirais que les avis s'affinent et un peu changent. Il faut savoir que au début, lorsqu'il y a une nouvelle technique qui est mise sur le terrain, il y a des grandes discussions. Mais au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on voit quelle est plus ou moins la tendance de la plupart des rabbanim sur certains sujets. Vous comprenez ?
Bien sûr.
Et au début, il y a des grandes discussions parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais après, ça commence à s'affiner et à se décider. Par exemple, au début, lorsqu'on parlait de fécondation in vitro, il y avait des grandes discussions entre les rabbins. Est-ce qu'on a le droit de faire des fécondations in vitro ? Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pratiquement aucun rabbin qui interdit de faire des fécondations in vitro lorsqu'un couple en a besoin.
Donc, fécondation in vitro, c'est acquis, mais il faut une surveillance quand même au niveau des laboratoires, je crois au niveau des manipulations dans les laboratoires. Il y a une surveillance rabbinique qui doit se faire, c'est cela ?
Alors, les rabbins, dès le départ... Une des craintes qu'ils ont eues, c'est une crainte au niveau, je dirais, de la filiation entre les parents et l'enfant. Être sûr que c'est vraiment l'enfant qui est né des gamètes des parents. Okay. Lorsqu'on est dans un laboratoire, on a des dizaines de couples qui apportent les maris le sperme, les femmes les ovocytes, on fabrique des embryons. Et ça, c'était une crainte dès le départ chez les rabbins, parce que déjà dans le Talmud, on parle de certaines craintes au niveau des filiations, de l'importance que les enfants soient, dont les parents soient connus, etc., etc. C'est déjà des sujets qui sont discutés.
Mais c'est légitime.
Déjà depuis des milliers d'années. Mais, alors, une des conditions que les rabbins avaient mis en place, c'était qu'il y ait une surveillance, comme il y a, vous savez, une surveillance dans les restaurants cachers ou dans les usines.
Bien sûr.
Alors, pareil. Alors, donc, l'Institut Poua, on a mis en place ce système-là, bien sûr, en Israël. Dans tous les laboratoires israéliens, on peut demander la présence d'une représentante de l'Institut Poua qui sera là durant les traitements et qui fera justement une traçabilité du départ jusqu'à l'arrivée, jusqu'au transfert des embryons, la congélation sera mise, les embryons des spermes, des ovocytes sera mis à part, etc. Et on a mis ce système en France, aussi en France. À Paris, on a ce système aux États-Unis, on a ce système dans d'autres pays.
C'est formidable.
En Espagne, etc. Et alors, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu, certainement oui, qu'en Israël, ces derniers temps, il y a justement
des grands sujets sur des erreurs
qui auraient été faites dans certains laboratoires
Absolument.
En Israël. Alors ça a justement relevé le débat et le sujet. Et je dirais qu'aujourd'hui, si au départ, c'était uniquement des couples, je dirais, qui étaient pratiquants,
oui, c'est ça.
Des religieux, qui prenaient contact avec l'Institut Poix sur ces sujets-là, aujourd'hui, énormément de couples, qu'ils soient pratiquants ou non, demandent notre surveillance.
Mais ça, ça devrait être généralisé à tous les laboratoires du pays, en fait, ou du monde. Hein.
Si demain, une personne dit, voilà, ça, c'est pas mon enfant, je crois pas qu'on puisse envoyer une personne de confiance qui fait, je dirais, qui est indépendant au laboratoire, qui travaille pas pour le laboratoire, et donc son témoignage devant un tribunal rabbinique, elle est encore plus forte parce qu'elle a aucun intérêt personnel. Donc au départ, c'est une demande qui est ilkhatique, qui a un rapport avec la halakha, avec la loi juive, pas un rapport avec une sécurité médicale. Mais bien sûr, à la fin, ça se rejoint.
Ok, alors. La fécondation in vitro, c'est acquis. Maintenant, il y a d'autres techniques. Alors, les dons de gamètes, donc dons d'ovocytes déjà. Qu'est-ce qui se passe en France au niveau déjà de la loi civile, hein, en France et en Israël, et pour faire la comparaison entre les deux pays pour nos auditeurs, et qu'est-ce qui se passe au niveau de la halakha?
Ok. Alors, dans les dons d'ovocytes, la France est bien en retard par rapport à Israël sur ces sujets-là. Pendant de longues années, ça a été interdit en France. Ça a été autorisé il y a vraiment quelques années, mais c'est encore, je dirais, nouveau. Et la législation en France est tellement compliquée que pratiquement, il n'y a aucun don d'ovocytes en France dans la pratique.
Oui, les médecins envoient leurs patientes à l'étranger, en Espagne,
voilà, etc. En Espagne, en Grèce, dans tous les pays d'Europe, surtout en Espagne.
Et en Israël?
Alors, en Israël, c'est autorisé, c'est aussi compliqué, je dirais, et que il y a peu d'hôpitaux qui sont d'accord de prendre les choses en main, et il y a peu de femmes, malheureusement, qui sont d'accord de donner des ovocytes.
Les médecins partent à l'étranger, en Ukraine, alors, avec leurs patientes aussi, c'est ça?
Alors, en Israël, c'est différent qu'en France. En France, ils envoient leurs patientes dans d'autres pays. En Israël, les médecins israéliens, une grande partie des médecins israéliens ont créé des cliniques dans différents pays ou se sont mis en contact avec des cliniques dans différents pays. Et en général, eux-mêmes, c'est les médecins qui accompagnent le couple ou les couples dans les différents pays. Mais de nos jours, ça ne fait même plus comme ça. De nos jours, le sperme est congelé en Israël. Il est envoyé par un médecin israélien qui va l'envoyer, qui va le ramener dans un pays, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Tchéquie, que ce soit différents pays. Sur place, on va fabriquer les embryons. Sur la surveillance de ce médecin qui est un délégué de l'hôpital israélien, et ce médecin, il va revenir en Israël avec des embryons qui seront congelés, et donc la femme, le couple n'ont pas besoin de voyager, tout est fait en Israël.
Deux petites questions sur ça. Alors déjà, l'Ukraine, j'imagine qu'aujourd'hui, depuis plusieurs mois, depuis le début de la guerre, là-bas, les médecins et les patients, etc., ne peuvent plus s'y rendre. Donc dans quel pays Israël envoie ses médecins et ses couples? Et deuxièmement, est-ce que ce n'est pas mieux justement d'aller faire ça à l'étranger pour éviter tous les problèmes de consanguinité qu'on pourrait avoir sur place en Israël, qui est un tout petit pays en fait, hein, où beaucoup de familles peut-être ne se connaissent même pas, etc. Vous ne pensez pas que c'est mieux d'aller chercher plus loin des ovocytes quand il y en a besoin?
Alors, pour répondre d'abord à votre première question, c'est vrai que l'Ukraine, au départ, c'était la plaque tournante. Surtout Kiev, de nos jours, avec ce qui se passe à Kiev et en Ukraine, les hôpitaux ont fermé, on ne peut pas voyager, etc. Donc ça s'est plus ou moins arrêté. Sauf à Lébor, qui est dans une ville qui est proche de la frontière avec la Pologne. Là-bas, ça continue à travailler parce que là-bas, il n'y a pas de guerre. Donc une partie des médecins se sont dirigés vers la ville de Lébor. Et il y en a d'autres qui sont partis en Géorgie, il y en a d'autres qui sont partis encore dans d'autres pays. Alors, vous avez raison. Au point de vue concernabilité, lorsqu'on amène les ovocytes d'une femme non juive qui est d'un pays qui est à plusieurs milliers de kilomètres, les risques de consanguinité, elles sont minimes, ou je dirais, elles sont même nulles. Même, donc, c'est, au point de vue médical, je dirais que c'est beaucoup plus préférable, vous avez raison. La grande question de halakha qu'il va y avoir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a utilisé les ovocytes d'une femme non juive? Est-ce que vous savez que le judaïsme, il passe par
la mer.
Et donc, la grande question qui s'est posée au niveau des rabbins, c'est si on utilise les ovocytes d'une femme non juive, est-ce que l'enfant qui va naître est juif, parce qu'il a été conçu, je dirais, dans le ventre, dans l'utérus d'une femme juive, il a été accouché par cette femme juive, ou est-ce que, parce qu'à la base, les ovocytes sont d'une femme non juive, est-ce que cet enfant est considéré comme non juif? C'est une grande discussion dans le monde de la halakha, je dirais qu'il n'a pas été encore décidé d'une manière finale. Une grande majorité des rabbins considèrent que c'est pas l'ovocyte qui vient définir la judaïté, mais
c'est
ça
la gestation.
La gestation et l'accouchement. Mmh. C'est la position de la plus grande majorité des rabbins dans le monde qui considèrent que c'est elle qui a donné la vie à cet enfant. Dans un ovocyte, il y a une vie, bien sûr, biologique, mais il n'y a pas une vie humaine. La vie humaine, elle va arriver lorsque d'abord, cet ovocyte va être fécondé, et puis après, qui va être
implanté.
Il y aura la nidation, il sera dans l'utérus, et puis après, il va passer, vous savez, une certaine période de gestation, et là, il va prendre une forme humaine. Jusque dans l'ovocyte humaine, il n'y a pas de vie humaine, je dirais, il y a une vie biologique. C'est pour ça qu'au point de vue du statut ilchatique de la halakha des ovocytes, il n'est pas interdit de jeter des ovocytes. Je dirais même plus, il n'est même pas interdit de jeter des embryons. Si on a un embryon dans un laboratoire et que la femme, par exemple, décide qu'elle veut pas avoir plus d'enfants et qu'elle demande de détruire ses embryons, dans le judaïsme, c'est tout à fait autorisé. L'embryon, il n'a pas un statut juridique d'un être humain.
Jusqu'à quel stade? Les premiers jours.
C'est déjà une grande différence entre, par exemple, le judaïsme et le catholicisme. Dans le catholicisme, c'est interdit de jeter un embryon. C'est considéré déjà comme un être humain en potentiel, alors que dans le judaïsme, non. Quand est-ce que l'embryon, il va vraiment avoir un statut d'être humain? Alors, vous savez, dans le judaïsme, ça vient par phases. Il y a différentes phases. Mais la première phase, c'est après 40 jours de gestation. Après 40 jours de gestation, c'est-à-dire que il faut que cet embryon il soit dans l'utérus et qu'il ait passé 40 jours de développement intra-utérin. C'est qu'à ce moment-là, vous êtes considéré vraiment comme un être humain, c'est-à-dire que par exemple, il va y avoir une implication énorme, par exemple, par rapport à un avortement, avant 40 jours ou après 40 jours. Et sur un autre point aussi important, c'est que d'après le judaïsme, d'après la Kabbale, je dirais, la neshama, l'âme humaine, elle rentre dans l'embryon au 40e jour de sa conception. Donc avant 40 jours, c'est considéré comme une vie biologique, même pas une vie humaine. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental.
D'accord.
Et ça répond justement à ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, les techniques de procréation médicalement assistée, de fécondation in vitro, aujourd'hui, on fait un transfert à J3, au 3e jour de la conception, ou bien J5, 6, maximum aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire dans les laboratoires. Pour pouvoir répondre à une question de halakha, il faut qu'on ait des sources talmudiques. Donc c'est une grande discussion au niveau des rabbins. C'est pour ça que certains couples, par exemple, veulent absolument des ovocytes d'une femme juive. Et donc dans ce cas-là, pour revenir à vos propos, c'est sûr que dans ce cas-là, on a plus un problème de consanguinité.
Alors, à part le don d'ovocytes, le don de gamètes, est-ce qu'on peut aborder à partir de la halakha le problème de la mère porteuse, hein, donc c'est la GPA, c'est la gestation pour autrui, comme on l'appelle en français. Qu'est-ce que la halakha nous dit par rapport à ça? Alors, on a tous entendu dire que dans certaines communautés juives, que ce soit en Afrique du Nord ou ailleurs, il y avait des femmes qui donnaient des enfants à d'autres femmes de leur famille qui ne pouvaient pas enfanter. Mais là, c'est pas exactement la même chose.
Ah non, là, c'est pas du tout la même chose. Là, ce que vous parlez, ça se faisait, oui, c'est vrai, en Afrique du Nord. D'abord, aujourd'hui, c'est totalement illégal. Je sais pas dans tous les pays, mais en France, à mon avis, c'est illégal. Et en Israël, pareil. On n'a pas le droit d'abandonner son enfant et de la donner à quelqu'un d'autre. Et si on le fait, ben, ça doit passer par des organismes
D'adoption.
d'adoption, etc. Ça peut pas être fait sous le manteau. Ça, c'est quelque chose de clair. Là, on parle d'une femme qui va porter les ovocytes, qui va porter l'embryon d'un autre couple.
Pour de
Donc, elle est,
l'argent.
je dirais, donc ce qu'on appelle la mère porteuse. Elle porte l'enfant pour un autre couple, et quand elle va accoucher cet enfant, et l'enfant, il va être donné en couple, qui sont les parents biologiques, et cette femme qui a accouché le bébé, ben, voilà, elle rentre chez elle, et voilà. Donc, ça, c'est interdit en France.
Donc en Israël, c'est permis, Rav. C'est permis.
Alors, par contre, en Israël, c'est permis. Je dirais qu'on est un des premiers pays au monde où on a permis ce genre de technique. Et il y a une loi qui a été élaborée. Il y a déjà plusieurs centaines de bébés qui sont nés grâce aux mères porteuses. C'est vraiment un acte de bonté merveilleux de pouvoir amener la vie pour un autre couple dont la femme ne peut pas en avoir, ne peut pas tomber enceinte.
Cette femme-là qui va être mère porteuse, donc en Israël, elle va être juive, ok?
Alors, selon la loi israélienne, une mère porteuse, elle peut uniquement être de la religion du couple
C'est
qui veut
ça.
tomber enceinte. Voilà. Donc, il faut que ce soit une femme juive pour une femme juive, une femme chrétienne pour une femme chrétienne, une femme musulmane pour une femme musulmane. Je suis pas certain que les musulmans ni les chrétiens font ce genre de technique pour des raisons religieuses, mais c'est la loi en Israël.
C'est ça, comme vous nous
Et
l'avez expliqué. Donc, c'est-à-dire que c'est la mère qui porte, qui donne la religion à l'enfant. Hein. Donc, si c'est la mère porteuse, eh bien, la mère porteuse doit être juive. Si c'est un couple juif qui se tourne vers elle.
voilà. Donc, encore une fois, aujourd'hui, à l'Institut Pouah, notre politique, c'est de faire si on autorise à faire un couple, d'avoir un enfant par une mère porteuse, il faut que la femme soit juive et que l'ovocyte soit d'une femme juive et que, encore une fois,
Donc la halakha
et
reste quand même très ouverte hein, sur toutes ces nouvelles techniques de procréation. Une autre question, est-ce que par exemple une femme seule, qui n'est pas mariée, mais qui arrive à un âge où elle commence un petit peu à s'inquiéter par rapport à sa fertilité, qu'est-ce qu'elle a comme possibilité? Déjà, elle peut congeler ses ovocytes pour être sûre d'avoir des ovocytes de qualité, même tardivement, même si elle se marie tardivement et qu'elle décide de faire un enfant. Est-ce qu'elle peut faire un enfant toute seule, selon la halakha?
Alors aujourd'hui, à l'Institut Pouah, on est je dirais, un des instituts en Israël qui encourage toutes les femmes, bien sûr que si elles le désirent, on encourage les jeunes femmes à congeler les ovocytes. Aujourd'hui, on a une femme à l'Institut Pouah, d'ailleurs qui est francophone, qui a pour rôle justement d'accompagner toutes les jeunes femmes qui sont des célibataires dans le processus. Leur expliquer le processus, les accompagner, s'il y a besoin, leur expliquer, etc., justement, pour qu'elles n'aient pas peur de passer par ce processus de préservation de leur fécondité. Et on sait aujourd'hui qu'après l'âge de 35 ans, la quantité, la qualité des ovocytes va en baissant. Alors, bien sûr, encore une fois, il faut pas mettre la panique dans la population, mais
Il
ce
faut y
sont les chiffres
penser.
qui sont des chiffres biologiques. Et bien sûr, encore une fois, l'Institut Pouah, on va l'accompagner. Ça, c'est tout à fait autorisé en Israël.
Ces jeunes femmes, elles n'ont pas trouvé le prince charmant, comme vous dites. En tout cas, elles n'ont pas trouvé l'homme avec qui elles avaient envie de faire leur vie. Et elles ont des ovocytes congelés. Est-ce qu'elles peuvent, selon la halakha, toujours enfanter seules, avec
Alors là,
un don de sperme?
je dirais qu'à l'Institut Pouah, pour nous, je dirais que là, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser. Parce
D'accord.
que on comprend très vraiment le désarroi et la douleur et ces femmes qui veulent absolument avoir un enfant. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est clair. Mais d'un autre côté, on considère qu'on ne peut pas trouver une solution d'apporter un bonheur pour cette femme en créant d'un autre côté un enfant qui à la base, est un enfant, je dirais, excusez-moi du mot, mais c'est comme ça qu'on ressent les choses, de mettre au monde un enfant qui est orphelin.
Parce que mais cet attendez, enfant, quand, quand vous dites ça, vous venez juste de dire que vous le ressentez comme ça. Mais ce n'est pas une halakha qui dit ça.
Non, je ressens pas. Je le ressens comme ça, ok ? C'est-à-dire que cet enfant, il n'a pas de père. Mm-hmm. Cet enfant, il va grandir sans... Et je dirais que aujourd'hui, lorsqu'il y a un enfant qui n'a pas de père, que ce soit un enfant dont le père est décédé d'une maladie, d'un accident, ou que ce soit un couple qui a divorcé, dont le père a pris ses bagages, il est parti à l'autre bout du monde et qui lui téléphone jamais, pour nous, on considère ça comme une catastrophe. C'est quelque chose d'épouvantable. Alors, est-ce qu'on a le droit, a priori, de choisir ce destin pour un enfant et de décider d'avoir un enfant qui n'aura pas de père? Et ça, nous, après avoir discuté avec énormément de, encore une fois, de rabbins dans le monde, mm-hmm. on considère que c'est vraiment une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser.
Si on refuse à cette femme cette possibilité, on l'empêche peut-être aussi à cet enfant d'avoir un père qu'elle va rencontrer peut-être dans les mois qui suivent ou dans les années qui suivent, avec qui elle va se marier, qui va accepter cet enfant et qui va l'élever comme son enfant. On empêche aussi cette possibilité-là, non ?
Nous, ce qu'on lui propose aujourd'hui, c'est de congeler des ovocytes et Imir Tachem, si Dieu veut, comme on dit, elle trouvera rapidement un mari. D'ailleurs, on s'est rendu compte de quelque chose qui est intéressant. Il faudrait peut-être faire une étude là-dessus, une étude sociologique ou psychologique, je ne sais pas. Il y a énormément de femmes qui ont congelé les ovocytes et quelques mois plus tard, elles ont trouvé justement l'âme sœur, ce prince charmant. Encore une fois, on pense qu'il y a un problème éthique à la base de créer un enfant qui soit un enfant qui soit sans père. Voilà, c'est quelque chose pour nous qui est considéré comme quelque chose qui n'est pas éthique.
Ok, voilà. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ce genre de questions aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est un problème plus moral qu'un problème médical ou halakhique, quoi, en gros.
Voilà.
D'accord. Bon, en tout cas, on s'aperçoit quand même que la halakha, elle est très ouverte par rapport à toutes ces nouvelles techniques. Et il y en aura d'autres. Il y a très certainement d'autres techniques qui sont en train de se préparer dans les laboratoires médicaux. Comment ça se fait que la halakha, qui est pourtant si vieille en âge, et puisse s'adapter à ce point à des techniques aussi avancées ?
Alors, je pense que la spécificité du judaïsme, c'est justement que c'est pas. C'est vrai qu'on se base sur des textes qui sont anciens, qui ont plusieurs millénaires. Mais il y a, comme je vous ai dit, une discussion qui existe depuis Moshe Rabbeinu, depuis le don de la Torah au Sinaï jusqu'à de nos jours. Et cette discussion, elle a été permanente. C'est-à-dire que il y a eu des discussions par le fait que les rabbins ont toujours discuté et essayé de comprendre et d'adapter et de donner des réponses par rapport à la réalité dans laquelle ils vivaient. Le judaïsme, c'est pas simplement une question de foi. C'est d'abord une réalité qui doit être mise en place dans tous les domaines de la vie.
Rav Benjamin David, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. En tout cas, c'est un sujet très riche, c'est un sujet très important, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens et qui est très sensible. Hein. On sait quelle souffrance ça peut être pour une femme, pour un homme, pour un couple, de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et c'était important d'éclaircir un petit peu tous les sujets halakhiques, les sujets qui concernent la halakha, le judaïsme, par rapport à toutes ces techniques de procréation médicalement assistée. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien.
Rav. N'hésitez pas, téléphonez-nous, c'est gratuit et on est là pour vous, pour répondre à vos questions et pour vous soutenir et puis pour être aussi dans les joies lorsqu'il nous annonce la naissance d'un bébé, on est toujours heureux et voilà.
Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt sur les ondes de Yedia.
Shalom, shalom.